C'est l'heure du journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Accord conclu en Italie, le mouvement 5 étoiles et la Ligue affinent en ce moment leur accord de gouvernement qui doit ensuite obtenir le blanc-seing du président italien Sergio Mattarella. Nous irons à Rome dans un instant. La Commission européenne va activer la loi de blocage censée protéger les entreprises européennes des sanctions que les États-Unis s'apprêtent à réinstaurer contre l'Iran. Le processus sera lancé demain matin. Nouvel appel des organisations de soutien aux réfugiés à Paris. Elles lancent une pétition pour demander une mise à l'abri humanitaire d'urgence des migrants. Ils sont 2400 à camper dans les rues de la capitale. Et puis les commissaires aux comptes sont en colère. Ils protestent contre une disposition de la future loi Pacte qui menacerait la profession. Les partis populistes italiens sont aux portes du pouvoir. Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les dirigeants du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, sont parvenus à un accord définitif sur leur contrat de gouvernement. Accord qu'ils ont continué de peaufiner tout au long de la journée, Mathilde Amberti.
Les deux hommes se sont revus ce matin à Rome. Luigi Di Maio représentant les 5 étoiles, Matteo Salvini, la Ligue, pour tenter de s'accorder sur les derniers arbitrages de leur programme commun. L'affaire est entendue, selon Luigi Di Maio. Le contrat sera conclu dans la soirée, a-t-il déclaré à la presse. Il précise que quelques passages sur l'immigration et la sécurité ont été ajoutés. Parmi les mesures principales de cet accord de gouvernement, comme il le qualifie, citons la mise en place d'un revenu minimum pour les Italiens les plus défavorisés, d'un plafond d'imposition également. On sait aussi que la sortie de l'euro ne fait plus partie du programme commun, contrairement à ce qui était écrit dans l'ébauche de programme qui avait fuité en début de semaine. Cette perspective de sortie de l'Italie de la monnaie unique avait déclenché une vague d'inquiétude et ce jeudi encore, la bourse de Milan est en recul. Le programme est donc sur la bonne voie, mais ce sera aux militants de chaque formation de le valider. Validation sur Internet pour le mouvement 5 étoiles par un vote qui devrait avoir lieu demain. Enfin, reste l'énigme du président du Conseil qui, pour piloter une alliance aussi inédite et mettre en œuvre son programme, les deux parties ne laissent rien filtrer. Mais d'après plusieurs médias, le nouveau chef de gouvernement sera un homme des 5 étoiles.
Mathilde Amberti, correspondante de France Culture à Rome. Les dirigeants européens sont rassemblés à Sofia depuis hier. Ce matin, ils ont promis aux pays des Balkans des investissements et des échanges éducatifs et culturels et assuré également que l'Union européenne allait renforcer son action pour soutenir la transformation politique, économique et sociale de la région. Mais de toute évidence, l'adhésion des pays des Balkans à l'UE n'est pas pour demain. Les Européens veulent tenter de consolider l'Union avant de l'élargir. Et puis dans l'immédiat, il y a des dossiers prioritaires. Depuis la capitale bulgare, le président de la Commission européenne a annoncé le lancement du processus destiné à protéger les entreprises européennes voulant investir en Iran des effets des sanctions américaines. Jean-Claude Juncker.
Les sanctions américaines annoncées ne resteront pas sans effet. Et donc nous avons pour devoir de protéger nos entreprises européennes et notamment les petites et moyennes entreprises. Les propositions que la Commission a soumises à la méditation des membres du Conseil européen furent intégralement suivis par les chefs d'État et de gouvernement. Nous devons maintenant agir. C'est la raison pour laquelle nous lançons le processus de recours à la loi de blocage qui vise à neutraliser les effets extraterritoriaux des sanctions dans l'Union européenne. Nous devons le faire et nous le ferons demain matin à 10h30. Ensuite, nous avons décidé de permettre à la Banque européenne d'investissement de faciliter l'investissement des entreprises européennes en Iran.
Jean-Claude Juncker au micro de Quentin Dickinson. En attendant que des mesures soient prises, l'armateur danois de navires pétroliers Maersk Tankers a annoncé la cessation de ses activités en Iran. Total aussi envisage de se retirer du pays. La décision de Washington de sortir de l'accord nucléaire de 2015 et de rétablir les sanctions contre Téhéran a aussi eu pour effet de faire grimper le prix du pétrole. Le baril de Brent de la mer du Nord a par exemple passé la barre des $80 ce matin, cours qu'il n'avait plus atteint depuis fin 2014. Mais les incertitudes concernant l'Iran ne sont pas les seuls à tirer les cours vers la hausse. Écoutez l'analyse de Jean-Marie Chevalier du Centre de géopolitique, de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. Il répond aux questions d'Éric Bégala.
On a une situation au marché pétrolier qui est assez volatile et assez incertaine. C'est-à-dire qu'on a des mouvements courts dans les deux sens. Et c'est lié à un équilibre complexe du point de vue de la prévision, parce qu'on a l'affaire d'Iran qui est très grave. Alors que va faire l'Iran ? L'Iran avait une production, des exportations qui étaient de l'ordre de 1 million de barils jour. Après la levée des sanctions en 2016, ils sont montés à 2,5 millions de barils jour, ce qui a représenté pour l'économie iranienne un formidable ballon d'oxygène. Maintenant, est-ce que l'Iran va pouvoir préserver ses clients asiatiques, la Chine en particulier, Je pense que c'est une possibilité. Vous avez différents éléments qui se combinent. On a le rôle de l'Iran et les incertitudes dont je viens de parler sur ce que seront ses futures exportations. On a la Libye, on a le Venezuela. On a donc des situations incertaines dans beaucoup d'endroits du monde. Et donc, ça introduit des variations qui sont plus, à mon avis, des variations de court terme que des indications de long terme. Sur le long terme, ce qu'on attend, c'est la réunion de l'OPEP qui aura lieu en juin, avec probablement une confirmation des réductions de production, l'OPEP cherchant à faire remonter les prix.
Ce Brent à $80 le baril, c'est quoi? C'est un petit épisode dans une tendance lourde?
C'est un petit épisode qui pourrait être confirmé par une réunion OPEP de juin, si l'accord sur la réduction de production se confirme.
Jean-Marie Chevalier, spécialiste des questions énergétiques. Une nouvelle qui risque d'alimenter les états d'âme de Nicolas Hulot. La Commission européenne a décidé de renvoyer 6 états membres, dont la France et l'Allemagne, devant la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir manqué à leurs obligations en matière de qualité de l'air. En clair, Pierre Benazet, les pays concernés risquent des sanctions financières pour ne pas avoir pris de mesures suffisamment efficaces.
On n'en est qu'au début de la procédure et on est encore loin ici d'émettre ne serait-ce qu'une estimation des sanctions financières. Il existe des lignes directrices avec des sommes forfaitaires et des astreintes journalières, mais personne à la Commission ne s'est apparemment aventuré à faire des calculs. En fait, il s'agit surtout pour la Commission de taper du poing sur la table. Selon le commissaire européen chargé de l'environnement, 6 États membres, dont la France, se sont vus accorder suffisamment de dernières chances depuis 10 ans pour respecter la directive européenne de 2008 sur la qualité de l'air. Les mesures correctrices proposées par ces États après un sommet de l'air à Bruxelles fin janvier sont jugées insuffisantes pour fournir aux citoyens une qualité de l'air acceptable avant plusieurs années. La Commission a donc en quelque sorte perdu patience et décidé ce matin d'entamer un recours devant la Cour de justice de l'UE contre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi l'Italie, la Roumanie et la Hongrie. Ces pays sont accusés de n'avoir pas respecté les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote et pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour écourter les périodes de dépassement. En France, par exemple, les normes de qualité de l'air ont été dépassées dans 12 zones, dont Paris, Marseille, Lyon ou encore la vallée de l'Arve. Ces pays, aujourd'hui pointés du doigt, ne sont pas isolés. 13 États membres au total sont désormais sous le coup de procédures devant la Cour de justice pour non-respect de ces normes sur la qualité de l'air. Et 3 autres États font aussi l'objet d'un recours pour dépassement des limites d'émissions de particules fines.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. La France accueillera la conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida en 2019. La France est le deuxième contributeur au Fonds mondial avec des versements de 360 millions d'euros par an destinés à lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. L'annonce faite par l'Élysée est perçue comme un signal encourageant par les ONG, Tara Schlegel.
Oui Aurélie, la lutte contre ces maladies a besoin d'argent, d'autant qu'elle fonctionne. Le nombre de morts du sida, par exemple, a été divisé par 2, 22 millions de vies sauvées. Même dans les pays à revenus intermédiaires, comme l'île Maurice par exemple, l'intervention du Fonds mondial, depuis 2010 en l'occurrence, est cruciale. Nicolas Ritter dirige l'association PILS, dans cette île où un toxicomane sur 2 est séropositif.
Ça a été une bouffée d'oxygène incroyable, pas seulement en termes de ressources, parce que des ressources, il y en a dans les pays, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du secteur privé, mais il est difficile politiquement pour l'État mauricien et pour d'autres États de investir sur des programmes pour des populations qui sont, je vais utiliser un peu un mot fort, mais diabolisées. L'homosexualité n'est pas quelque chose de culturellement accepté à l'île Maurice. L'usage de stupéfiants est hautement criminalisé dans notre île. Les personnes trans ne sont absolument pas reconnues par la loi.
Et donc, sans le Fonds mondial, impossible à Maurice de soigner ses populations clés. À l'échelle internationale, le Fonds fournit la moitié des traitements antirétroviraux. 11 millions de malades dépendent de lui directement, d'où l'importance d'avoir trouvé un leadership. Enzo Poultronier, responsable du plaidoyer chez AIDE.
On est un dirigeant sur la planète qui prenne en main le sujet pour déclencher des hausses de contribution de ses partenaires au sein du G7, mais aussi au-delà. Un exemple fort, c'est celui du Partenariat mondial pour l'éducation qui s'est réuni en février 2018 à Dakar sous la coprésidence de Macky Sall, président sénégalais, et Emmanuel Macron. Les contributions sont passées d'un 1,3 milliard à 2,7 milliards, donc plus que doublé. Et là, voilà, on voit clairement que quand un pays décide de prendre le sujet à bras-le-corps, ça peut faire la différence pour faire de cette conférence un succès.
En attendant, les ONG espèrent donc un geste du président Macron. La contribution de la France n'a pas augmenté depuis Nicolas Sarkozy en 2010.
Tara Schlegel. L'Organisation mondiale de la santé redoute une épidémie urbaine majeure en République démocratique du Congo. Une épidémie d'Ebola s'est déclarée le 8 mai dans le Nord-Ouest. 3 personnes sont mortes et plus de 300 personnes auraient eu des contaminations contact direct ou indirect avec les malades d'Ebola à Mbandaka, zone urbaine peuplée d'1,2 million d'habitants. L'OMS a donc livré hier près de 5 400 vaccins. Vaccins qui ne sont pourtant pas une solution miracle, explique Axel Ross, la coordinatrice d'urgence de Médecins sans frontières qui s'occupe tout spécialement d'Ebola.
Les vaccins sont livrés, oui. Maintenant, il faut les acheminer jusque sur le terrain. Et puis, l'activité principale maintenant, c'est de prendre en charge des patients et d'essayer d'identifier quelles sont les personnes avec lesquelles ils ont été en contact. Dès qu'on a une personne qui a la maladie Ebola, on identifie toutes les personnes qui ont été en contact avec elle. Et puis aussi les contacts élargis, donc aussi les contacts de ces contacts-là, avec l'idée d'essayer d'éviter qu'il y ait une propagation de la maladie. Autour de chaque personne malade, il y a une trentaine de personnes qui vont être vaccinées. Le vaccin, c'est une partie de la réponse, c'est une arme supplémentaire. Mais ce n'est pas la seule. On prend en charge les patients qui sont malades, on les met dans des centres de traitement particuliers, on les isole du reste de la population. On essaye d'identifier toutes les personnes avec lesquelles elles étaient en contact. On suit ces personnes pendant 3 semaines pour voir si elles ne sont pas en train de développer la maladie. On va dans leur communauté expliquer ce que c'est la maladie, expliquer qu'ils doivent emmener les patients à tel endroit, qu'ils ne doivent pas s'échapper. C'est une zone tout à fait isolée, en tout cas la zone où il y avait le premier foyer. La chaîne du froid du vaccin, elle demande d'être à moins 80 degrés jusqu'à un certain stade. Logistiquement parlant, c'est un vrai challenge. Il y a des ponts aériens qui ont été créés, des avions mis à disposition et des hélicoptères. Et sinon, c'est la voiture et puis la moto. Et puis on finira à pied s'il faut finir à pied.
Axel Ross de MSF avec Elie Abergel. Ils sont généralement discrets, mais aujourd'hui, les voilà dans la rue. Des commissaires aux comptes manifestaient cet après-midi à Paris, à Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon et Strasbourg. C'est la deuxième fois seulement en 80 ans d'existence de la profession qu'ils défilaient. Ils dénoncent une disposition de la future loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise, qui prévoit de diminuer leur présence dans les entreprises. Alors expliquez-nous pourquoi, Catherine Pétillon.
Bien, ce que Bercy veut faire, c'est relever le seuil à partir duquel il est obligatoire pour une entreprise de faire auditer ses comptes en le faisant passer à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les SARL. Conséquence, plus de 150 000 petites et moyennes entreprises ne seraient plus tenues de nommer des commissaires aux comptes. Ces professionnels, dont le rôle est entre autres d'attester de la régularité des comptes d'une entreprise ou encore de s'assurer de la continuité d'exploitation. Ces experts assermentés ont aussi une responsabilité pénale, charge à eux de vérifier qu'il n'y a pas de fraude ou alors de les signaler au procureur, le cas échéant. Pour les entreprises exemptées de cette obligation d'audit, cela représente une économie d'environ 5 500 euros par an, ce qui pour Bruno Le Maire constituerait une mesure de simplification. L'argument est loin de convaincre Jean Boucaud, il est le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Il ne faut pas confondre simplification avec simplisme et perte de confiance et perte de sécurité. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels les entreprises, à juste titre, peuvent se dire « tout se complexifie autour de nous ». Le commissaire aux comptes, je réfute l'idée que ça soit un besoin de simplification. Nous apportons une garantie qui est fondamentale pour la sécurité et la transparence dans l'économie. Et ça, je pense que ça a un prix, c'est un coût, c'est comme une assurance. Eh bien, cette assurance, elle est importante pour l'ensemble de l'économie.
Les commissaires aux comptes s'inquiètent pour leur mission de service public, disent-ils, mais aussi pour leur avenir. Avec une telle réforme, un quart d'entreprise en moins aurait recours à leur service. 7 à 10 000 emplois seraient alors menacés.
Catherine Pétillon, la grève intermittente reprend à la SNCF. Pour cette 10e séquence, la direction prévoit demain un peu plus d'un TGV sur deux, un RER sur deux, deux TER ou Intercités sur 5 et 2/3 des TGV low cost, les Ouigo, circuleront. Une première depuis le lancement du mouvement contre la réforme du ferroviaire. Plusieurs alertes avaient déjà été lancées par les associations comme par la maire de Paris, Anne Hidalgo. La situation des migrants continue de se dégrader dans la capitale. Afghans, Soudanais, Somaliens, Érythréens, quelques 2400 personnes campent où elles peuvent, porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle ou le long du canal Saint-Martin. Une trentaine de dirigeants de grands réseaux associatifs et de syndicats lancent une pétition pour demander au pouvoir public une opération de mise à l'abri humanitaire d'urgence, garantissant un hébergement digne dans la durée avec un accompagnement social et sanitaire. Mao de Butler, vous vous êtes rendu dans le camp du Millénaire à Aubervilliers, qui abrite environ 1500 personnes dans des conditions extrêmement précaires.
Au bord du canal Saint-Denis, des employés en costume longent le campement pour rejoindre leur bureau. Les tentes sont si serrées qu'il y a à peine la place de s'y frayer un passage. Depuis le centre commercial du Millénaire, on aperçoit les vêtements qui sèchent au soleil sur les grilles. Abdallah est arrivé ici il y a une semaine, ancien militaire en Érythrée, il a fui la dictature. La vie dans le camp est rude, il raconte les nuits froides, la promiscuité et l'agressivité qui en résultent. Un de ses compatriotes confirme, traduit par un bénévole de France Terre d'Asile.
C'est très compliqué, il y a les bagarres la nuit, il y a les gens qui menacent avec des couteaux, voilà, c'est compliqué. La vie.
Pour Guillaume Schers, directeur urgence à France Terre d'Asile, la situation dans les campements parisiens s'est très clairement détériorée dans les dernières semaines.
L'explication, c'est tout simplement c'est que la promiscuité des personnes, l'état sanitaire des personnes, c'est aussi dégradé. Et tous ces éléments réunis font que les tensions augmentent. Voilà.
Au début du mois, deux personnes ont été retrouvées mortes, noyées. Les associations exigent une mise à l'abri de tous les migrants.
C'est totalement inacceptable que des personnes dorment à la rue dans ces conditions aussi dégradées d'hygiène, de sécurité, où on s'aperçoit que ça a des conséquences sur les personnes. Et on voit, on constate la dégradation des personnes au quotidien. Et c'est ça qui est dramatique. Et aujourd'hui, même là, les deux incidents tragiques, les deux morts, devraient vraiment alerter sur ces situations.
Du côté du gouvernement, on ne parle que d'évacuation, une réponse stérile pour les associations qui veulent de vraies solutions d'hébergement.
Maud de Butler. Une deuxième opération d'expulsion a été menée ce matin dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Elle visait une dizaine de squats. Elle s'est déroulée beaucoup plus calmement que les premières évacuations le mois dernier. On change maintenant totalement d'ambiance. C'est l'effervescence à Windsor, au Royaume-Uni. La petite ville de 30 000 habitants s'apprête à multiplier sa population par 3 samedi pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Alors nous n'allons pas entrer dans le détail de la liste des invités, mais plutôt nous intéresser aux retombées économiques de ce mariage royal. Elle devrait tourner autour d'1,5 milliard d'euros. Et sur place, les commerçants jouent la surenchère pour attirer les touristes. On retrouve Antoine Gignot à Windsor.
Les rues débordent de drapeaux britanniques avec des portraits du couple, des cœurs, des ballons et dans la vitrine d'un salon de thé, les initiales des mariés sculptées sur un gigantesque gâteau recouvert de dorures. Le directeur s'appelle Tijan Jie.
La cuisine est prête, la pâtisserie est prête, le service client est prêt, on a commandé beaucoup de champagne, des kilos de fleurs, du sucre et plein d'ingrédients. Je prévois un chiffre de 22 000 euros par jour, ça va être extraordinaire. Parce que c'est le plus jeune frère du prince William et partout dans le monde, les gens l'aiment, alors il va y avoir beaucoup de passages.
Tellement de passages que les hôtels sont complets avec des chambres à 8 000 euros la nuit. Le secteur touristique va engranger en moins d'une semaine 330 millions d'euros. Matt est agent artistique, il organise la plupart des concerts et des soirées privées qui vont avoir lieu samedi.
On gère 72 concerts dans la journée, du jazz, du rock et des DJ. Avec 28 000 personnes dans la rue, 72 000 personnes le long du cortège, ce sera le plus gros événement qu'ait connu Windsor. Il y a beaucoup de célébrités, Elton John, les Spice Girls, et Ed Sheeran, beaucoup de stars et beaucoup de dépenses.
En tête des dépenses, la bière, les Anglais s'apprêtent à boire environ 50 millions de pintes et les produits dérivés, assiettes, porte-clés, maillots de bain, siglés Harry et Meghan, qui vont rapporter plus de 50 millions d'euros. À Stoke-on-Trent, dans les Midlands, la manufacture d'Alcyon Days fabrique la vaisselle royale de Buckingham depuis plus de 40 ans. Pamela Harper et ses 70 salariés ont aussi lancé la production de tasses commémoratives avec les drapeaux britanniques et américains.
À la minute où ça a été annoncé à la télévision, l'équipe de design s'est mise à travailler très vite pour dessiner le produit. Ce sont deux personnes très jeunes, très modernes dans leur approche. On voulait quelque chose qui reflète leur personnalité. Quelque chose de pâle, frais, avec des pivoines roses, parce que ce sont les fleurs préférées de Meghan Markle. Les petites entreprises comme nous connaissent un pic d'activité lors de ce genre d'événement.
Car la production, ces dernières semaines, a augmenté de près de 10%. C'est surtout le savoir-faire que l'entreprise met en avant. Selon les experts, le mariage royal représente un gain de 300 millions d'euros de publicité pour les produits britanniques. Mais il faut que tout soit parfait, explique Diane, qui contrôle la qualité des tasses qui sortent de l'atelier.
C'est des années d'expérience. Ça fait 35 ans que je suis dans le métier, alors je sais ce que je cherche. Celle-là n'est pas bonne. Il manque un morceau. Il faut que ce soit le top de la qualité. C'est très enthousiasmant. On a une famille royale adorable. Ils méritent d'avoir de jolies choses. Et c'est chouette que les gens de Stoke-on-Trent puissent partager ça avec le reste du pays.
Avec le pays comme avec le reste de la planète, en 2011, le mariage de William avait été regardé par 27 millions de Britanniques, 23 millions d'Américains et 72 millions de personnes un peu partout sur Internet.
Dossier signé Antoine Gignoux, notre correspondant au Royaume-Uni. Et qu'est-ce qu'être royaliste en 2018? C'est la question à laquelle vous êtes invité à répondre via les réseaux sociaux. Quelques réponses demain matin à 7h35 dans hashtag et sur franceculture.fr. Le temps sera ensoleillé demain au nord de la Seine et près de la Méditerranée, mais nuageux ailleurs et parfois menaçant sur les Pyrénées, le sud du Massif central et les Alpes. Les températures iront de 4 à 13 degrés le matin du nord au sud. L'après-midi, 18 à 24 degrés en général, un peu moins près de la Manche, mais jusqu'à 26 dans la vallée du Rhône. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.